Bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Tech for Good par Socialware. On parle dans cet épisode de cybersécurité avec Adrien Ottavino, commercial grand compte chez ISET Belux, une entreprise européenne active dans ce domaine depuis plus de 30 ans. Cet épisode est divisé en trois sous-parties. Vous écoutez ici la deuxième partie, donc un second niveau pour parler davantage des outils et différents moyens pour se protéger en ligne. C'est parti pour l'écoute!
Ce qu'on peut mettre en place. Hein. Tout d'abord, le plus important pour moi, avant même de parler d'outils, ça va être bien entendu des formations, des sessions de sensibilisation peut-être pour des utilisateurs qui seraient, comme je dirais, pas trop avertis. Mettre en place des sessions comme ça d'accompagnement, de formation et peut-être prévoir également, en fonction effectivement de ce qui est disponible, parce qu'il y a toute la partie financière derrière, mais il y a des choses qui sont pas chères et par exemple, c'est de lancer des campagnes de spam en interne, de phishing en interne, pour faire un petit peu de l'ingénierie sociale. Et ça permet justement de relever là où il y a les failles, de voir quels sont les utilisateurs qui ont des comportements à risque, entre guillemets. Et du coup, ça permet déjà de cibler, on va dire, une partie du problème et de réduire la surface d'attaque. Quand je parle d'ingénierie sociale, il faut voir aussi plus large que le mail et regarder tout ce qui va être les comportements, comme je disais, se connecter à un VPN, avoir un VPN sécurisé. Il y a des sociétés qui ont une approche, on va dire, risque et des autres qui ont une approche coût. Dans le cas d'une approche risque, on va essayer de mettre en place des outils pour se prévenir des risques, alors que dans une approche coût, c'est les gens qui vont dire « Ok, aujourd'hui je ne mets pas en place d'outils de cybersécurité parce que ça coûte cher, peut-être que c'est justifié, je ne connais pas tous les budgets, mais en gros je ne mets pas en place d'outils et je prends le risque de prendre une attaque ». Le souci c'est un petit peu… Je pense que le parallèle que je vais faire, il est peut-être un peu facile, mais je trouve qu'il fonctionne. C'est un petit peu comme la sécurité routière, en fait. Aujourd'hui, tu peux prendre le risque de passer un feu rouge, de pas mettre ta ceinture, de faire des choses comme ça. Et tant qu'il t'arrive rien, mais il t'arrive rien, et c'est tant mieux, quoi. Mais le truc, c'est que la probabilité qu'il t'arrive quelque chose, du coup, elle augmente, et elle augmente vraiment drastiquement. Et surtout qu'aujourd'hui, les experts en cybersécurité, ils sont assez unanimes sur le fait que c'est pas si je prends une attaque, c'est plutôt quand je vais la prendre. D'un point de vue sécurité, il y a vraiment, on va dire, un effort à faire au niveau justement de ce changement de paradigme et de se dire ok, on arrête de penser avec des coûts et on va essayer de penser plutôt avec une approche risque. D'autant plus que l'approche coût, le jour en fait où une attaque arrive, généralement les conséquences financières elles sont beaucoup plus importantes et elles sont dramatiques pour l'organisation comparé à si on avait mis en place des systèmes de sécurité.
Après tout ce volet de sensibilisation en interne, quels sont les outils qu'on va pouvoir mettre en place pour se protéger ?
Évidemment, d'abord il y a un système de protection anti-malware, de ce que nous on appelle la protection endpoint, qui est nécessaire, et plus seulement on va dire un antivirus de base, mais l'idée c'est d'avoir une solution qui va offrir on va dire des couches de sécurité, multiples couches de sécurité plus complètes. Aujourd'hui, il faut savoir que il y a des éditeurs de solutions de sécurité qui présentent une approche uniquement basée sur l'analyse comportementale. Alors oui, l'approche comportementale c'est hyper bien, mais ça ne veut pas dire que pour autant on doit délaisser d'autres approches. L'analyse comportementale c'est génial pour prévenir des attaques de malware inconnu par exemple. Mais par exemple dans le cas de menaces connues, une base virale ça va être toujours efficace. Donc l'idée ça va être un petit peu d'essayer de trouver des solutions, des éditeurs qui combinent ces approches là. Par exemple nous c'est ce qu'on fait chez ISET parce que ça permet justement de couvrir vraiment de couvrir un maximum de bases en cas d'attaque. Donc ça c'est la partie anti-malware. Après évidemment il y a la partie firewall, le pare-feu, qui offre la protection périmétrique au sein de l'organisation. Ça c'est hyper important, mais derrière il y a deux points à soulever. Le premier c'est dans le cadre du télétravail. Évidemment le firewall, son utilité elle décline un peu puisque c'est un firewall, généralement c'est un firewall physique. Il va être dans les locaux de l'entreprise, donc à partir du moment où on est hors des locaux, on est hors du réseau, tout de suite ça marche moins bien. Et le deuxième point c'est que du coup pour pallier un petit peu à cela, il peut être intéressant d'opter pour un deuxième type de firewall, un firewall numérique qu'on va installer, on va dire, sur les postes. L'idée, c'est que le firewall, en fait, ce firewall qui va être installé sur les postes, il ne va pas être utile uniquement dans le cadre d'un travail à distance ou lorsqu'on se connecte à un réseau public qui n'est pas sécurisé, etc. Mais il va être également être intéressant de l'avoir au sein de l'organisation, parce que ça va justement permettre d'éviter la transmission et la propagation d'un virus, d'un malware entre les machines. Hein. Donc on a vraiment d'abord la partie protection endpoint, ensuite la partie firewall. Il y a deux derniers éléments dont on va pouvoir discuter. Alors le premier, c'est la double authentification. Alors un système de double authentification, c'est un système qui va permettre de vérifier l'identité d'une personne, puisque on va avoir le système de login mot de passe qu'on va lier, donc qui est quelque chose qu'on connaît, qu'on va lier avec une autre source qui est une ressource qu'on possède. Donc généralement par le biais d'un smartphone ou d'un token physique, etc. Et ça va permettre de sécuriser du coup l'accès à des ressources qui seraient importantes et ou critiques. Hein, dans le cas par exemple où on a une fuite de données, fuite on va dire du login mot de passe, un système de double authentification avec un mot de passe à usage unique, ça permet de, même s'il y a une fuite sur le login mot de passe de base, le second mot de passe, étant donné que c'est un mot de passe à usage unique, étant donné qu'on va mobiliser par exemple le smartphone d'un utilisateur, etc., ça, on ne va jamais le perdre. Hein, parce que ça veut dire qu'il faudrait perdre et le périphérique d'authentification, on va dire, et le login mot de passe. Donc c'est beaucoup plus, on va dire, c'est beaucoup plus difficile pour un attaquant, surtout dans le cas d'attaque à distance. Hein, maintenant, sur des... Je ne vais pas dire que ça réduit à zéro le risque la double authentification, parce que il peut toujours y avoir des malversations, on va dire, au sein d'une organisation, mais c'est plus compliqué. Voilà. Et du coup, surtout que la problématique du login mot de passe, c'est que bien souvent, c'est des mots de passe qui sont les mots de passe qui sont utilisés sont des mots de passe faibles, hein, donc avec peu de caractères, sans caractères spéciaux, etc. Hein, je le répète pour les gens qui seraient encore un petit peu réfractaires, mais aujourd'hui, un mot de passe simple, c'est un mot de passe qu'on peut craquer facilement. Hein, dans ce cas-là, on va parler de brute force, c'est-à-dire qu'on va essayer toutes les combinaisons possibles jusqu'à ce qu'on retrouve le bon mot de passe. Et donc forcément, plus on a un mot de passe court et peu complexe, plus il va être facile de brute forcer justement ce mot de passe. Donc c'est pour ça qu'on conseille évidemment d'utiliser des mots de passe longs et complexes avec des chiffres, des lettres, des lettres majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux, etc.
Sinon, puisqu'on parle de mots de passe, c'est vrai qu'il y a aussi les gestionnaires de mots de passe qui peuvent grandement aider.
J'allais dire ça, c'est une bonne alternative en fait. C'est vraiment une bonne chose, parce qu'un gestionnaire de mots de passe, dans la plupart des cas, en fait, on va retenir qu'un seul mot de passe. C'est-à-dire que l'utilisateur va retenir, on va dire, le mot de passe pour accéder à son portefeuille de mots de passe, justement. Et le truc, c'est que l'utilisateur va devoir gérer un seul mot de passe complexe à retenir. Et derrière, c'est le gestionnaire qui va souvent générer des mots de passe à 24, 48, 56, voire plus de caractères, hyper complexes, et donc impossible à retenir. Et du coup, mais tout va se faire en fait via la gestion de cet outil-là. Maintenant, effectivement, il faut quand même derrière, encore une fois, il va falloir que l'utilisateur joue le jeu, qu'il mette quand même un mot de passe complexe à la base, on va dire sur le cadenas de ce portefeuille-là, parce que sinon, c'est pareil, ça peut être hyper hyper compliqué une fois que c'est compromis. Maintenant, pour les gens qui seraient effectivement réfractaires à l'utilisation d'un système comme ça de gestionnaire de mots de passe, vous pouvez toujours, ça c'est un peu des petits tips entre guillemets, mais vous pouvez toujours en fait utiliser une phrase, hein, parce que c'est plus simple à retenir, c'est un moyen mnémotechnique, une phrase typiquement, une question ou avec un point d'exclamation à la fin. Ou changer les A en 4, les E en 3 par exemple, les choses de ce type-là, mettre des majuscules en D au début des mots, etc. Mettre des underscores, des tirets, tout ça c'est comme vous le sentez, mais effectivement derrière, l'idée c'est que pour des gens qui auraient peur d'oublier un mot de passe, ça peut être une alternative, ce n'est pas la plus sécurisée, loin de là. Le mieux reste quand même le gestionnaire de mots de passe, mais si vous n'êtes pas du genre de gestionnaire de mots de passe, c'est une alternative possible. Maintenant sur le système de double authentification, justement, le fait d'avoir, parce que la plupart des systèmes de double authentification proposent ce que j'avais évoqué, peut-être un peu rapidement, mais donc le mot de passe à usage unique, hein, le one-time password, comme on appelle ça, l'OTP. Hein, l'idée c'est vraiment, c'est que y a un mot de passe qui va être généré sur le moment pour la connexion, avec une utilisation limitée à une seule fois, mais également une utilisation limitée dans le temps. Généralement, c'est quelques minutes, histoire que justement la fenêtre de tir en cas d'attaque, elle soit hyper, 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 hyper réduite. Et ça reste la meilleure chose, vraiment, de loin. Mais voilà, les autres alternatives dont on vient de parler sont également viables.
Voilà, c'est terminé pour ce premier épisode. Nous espérons qu'il vous a inspiré. N'hésitez pas à aller consulter l'article du podcast pour plus d'informations directement sur socialware.be. Tech for Good, c'est un podcast proposé par Socialware ASBL. Écoutez nos prochains épisodes, abonnez-vous, partagez notre podcast. Merci pour votre écoute et à la prochaine.